Zoé Dupeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pays d'art et d'histoire des Hautes-Terres corréziennes et de Ventadour. Nous vous recevons pour parler de l'exposition Traces de migrants. Nous vous avons reçu une première fois il y a quelques semaines en compagnie de Philippe Brugère, maire de Meymac, pour parler de l'origine de cette exposition, à savoir la création d'un CADA en 2005 sur la commune de Meymac. On va s'intéresser aujourd'hui à une profession un peu particulière et méconnue. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter l'exposition Traces de migrants ?
Oui, l'exposition Traces de migrants, c'est une exposition composée d'une vingtaine de panneaux qui parle de l'histoire des migrations en Haute-Corrèze, donc avec une partie sur les migrations, c'est les Corréziens qui sont partis, et une partie sur l'immigration, c'est les étrangers ou les Français qui sont venus en Corrèze. Et cette exposition, elle est composée donc des panneaux et aussi de témoignages audio et vidéo et d'un carnet d'exposition qu'on vend lorsque l'exposition tourne sur les territoires, puisqu'elle est itinérante, et on peut la voir cet été sur le territoire.
Je le disais, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une profession méconnue, les marchands de toile. Pourquoi cette profession est méconnue ?
Parce qu'on parle beaucoup ici en Haute-Corrèze des marchands de vin. C'est quelque chose de vraiment très connu, parce que ça se voit beaucoup sur le paysage en plus. Et les marchands de toile, ça a été connu, mais c'est vrai que souvent quand on parle de l'expo en visite, les gens, ils comprennent pas, ils disent « mais qu'est-ce que c'est les marchands de toile ?»
Justement, qui sont ces marchands de toile et que font-ils ?
Alors ce sont des commerçants indépendants qui partent vendre de la toile, donc ils partent des départements de la Corrèze, du Cantal et du Puy-de-Dôme, qui partent à partir des années 1860, vendre de la toile un peu partout en France. Et en fait, la toile, c'est des grands rouleaux de toile qu'on vend aux maîtres, aux familles, directement chez eux, parce qu'ils utilisent un peu les mêmes techniques que les marchands de vin, c'est-à-dire grande confiance avec la clientèle. Ils vont directement à domicile et le crédit si nécessaire. Et ils prennent leur origine, en fait, dans les marchands de parapluies, les cordonniers ambulants, les vitriers qui... partent, eux, principalement de la Haute-Corrèze, autour de petits villages comme Combressol, Palisse, et en fait, et autour des cantons de La Plot et Neuvic, et de génération en génération, ils deviennent ensuite marchands de toile.
Et c'est un phénomène important en Haute-Corrèze ?
Oui, parce que donc, le gros noyau, c'est surtout dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, enfin surtout dans le Cantal, puis un peu en Puy-de-Dôme et un peu en Corrèze, et surtout en Haute-Corrèze, parce que c'est la partie la plus proche, et surtout en Haute-Corrèze, dans les cantons de Bord et de Neuvic, de Bord-les-Orgues et de Neuvic.
Vous avez fait le parallèle entre ces marchands de toile et les marchands de vin. Ces marchands de toile, c'est comme les marchands de vin, et c'est des intermédiaires entre des producteurs de toile d'un côté et des clients de l'autre. C'est comme ça que ça se passe ?
C'est ça, ils achètent à des fournisseurs. Alors, on sait pas, il n'y a pas forcément des fournisseurs en Corrèze et en Cantal. Au début, c'était peut-être juste des toiles de lin qui étaient fabriquées de manière artisanale, qui vendaient. Et après, ils achètent à des gros fournisseurs qui sont dans le Nord et dans le Choletais, par exemple. Et ils revendent aux clients des produits de qualité. Ça, c'est hyper important pour les marchands de toile. C'est d'ailleurs pour ça que c'était important comme commerce, parce qu'à l'époque, on cherchait de la toile et du linge de qualité. On attachait de l'importance au fait que ça tienne de génération en génération.
C'était des entreprises familiales, des affaires familiales.
Oui, souvent, c'était soit un marchand qui... était marchand de toile parce que son père ou son grand-père était marchand de toile. Souvent, il travaillait avec sa femme, d'ailleurs. Il partait en binôme. La femme pouvait plus faire les comptes, par exemple, tenir le carnet de commandes. Lui, plus vendre. Il fallait avoir un certain bagout, quand même, pour essayer de vendre et de trouver vraiment ce que le client recherchait. Et des fois, il pouvait même partir en groupe, c'est-à-dire qu'il partait en groupe dans une ville, et puis à partir de la ville, ils essaimaient tous les villages alentours.
Vous avez expliqué qu'il était important pour ces marchands de vendre de la toile de qualité. Vous avez évoqué le lin. Quel autre type de toile est vendu par ces marchands de toile ?
Eh bien, au départ, c'était des grands rouleaux de toile de lin. Avec l'évolution du métier, ils ont vendu ensuite des vêtements, des draps, des mouchoirs. Et puis ensuite, ça a été des vêtements de travail, puis des meubles et même de l'électroménager dans les années 1960.
Et qui sont les clients de ces marchands de toile ? Des entreprises, des particuliers ?
Alors au début, c'est vraiment des particuliers. Enfin, d'ailleurs, jusqu'à la fin, ce sont des particuliers. Et on va vraiment chez le client. En fait, on fait d'abord du démarchage un peu comme du porte-à-porte. Ou alors, il y a quelqu'un sur place qui connaît les gens et qui nous dit « bah voilà, le marchand de toile va venir telle date ». Et ça devient même des amis à force, vu que tous les ans, le marchand de toile vient à telle période.
Jusque quand les marchands de toile voyagent à travers la France pour vendre le lin et puis ensuite les mouchoirs, les draps?
Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, aujourd'hui, ils sont plus que 35 en France. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est encore une profession importante, mais bon, ils existent encore. Et l'âge d'or, c'est jusque dans les années 60-70. Ça a duré à peu près un siècle, de 1860 à 1960-70.
Et on trouve encore des marchands de toile en Haute-Corrèze ?
Je ne crois pas. On trouve des témoignages justement de ces derniers marchands de toile dans l'ouvrage d'Anne Clairet qui s'appelle « Histoire de marchands de toile » et qui est sorti en février 2020. Donc là, dans ce livre, il y a un ou deux marchands de toile actuels qui témoignent, mais je ne sais plus où est-ce qu'ils sont.
Vous parlez de témoignages. Dans le carnet de l'exposition « Traces de migrants », on trouve un portrait de Jean Brive, dernier marchand de toile d'une affaire familiale. On l'écoute tout de suite, lu par Marion.
Les grands-parents de Jean Brive sont originaires de la commune de Mest. Paysans, ils partent en migration comme marchands de toile et de parapluies vers le Nord-Pas-de-Calais sur une période de 3-4 mois. Ils se déplacent avec une charrette, maringotte, tirée par un cheval. Durant ce long voyage, pour monter dans le Nord, ils vendent aussi sur la route. Le père de Jean part à son tour, mais sa migration devient permanente puisqu'il s'installe avec sa famille à Boulogne-sur-Mer. Il se déplace vers Montreuil, le Touquet. Durant sa jeunesse, Jean apprend le métier aux côtés de son père et reprend l'affaire en 1970. Le négociant voyageur, comme le marchand de toile avant lui, vend d'abord du linge de maison. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la profession, des meubles et de l'électroménager sont aussi à son catalogue. Les marchandises sont récupérées en usine, puis ensuite vendues chez les clients. L'entreprise de Jean est prospère. Elle compte jusqu'à 3000 clients. Tous les ans, au mois de juillet, il retrouve ses collègues au salon des négociants voyageurs de bord. Cela lui permet de rencontrer d'autres négociants, mais surtout de voir les produits et les nouveautés proposées par les entreprises et les usines. Un syndicat des négociants voyageurs et une charte ont même été créés, permettant à la profession de se professionnaliser. Les négociants possèdent une carte professionnelle qui évite notamment que la police ne saisisse les marchandises dans un véhicule plein à craquer. Jean se souvient d'avoir vu plusieurs personnalités à ce salon, notamment Jacques Chirac quand il était Premier ministre. Jean retourne en Corrèze à sa retraite dans le village de ses aïeux.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Vassivière. Nous sommes en compagnie de Zoé Dupeux, responsable du pays d'art et d'histoire des Hautes-Terres corréziennes et de Ventadour. Nous sommes ensemble pour discuter de l'exposition « Traces de migrants » et nous nous intéressons aujourd'hui précisément aux marchands de toile. On vient d'ailleurs d'écouter un portrait de Jean Brive, dernier marchand de toile d'une affaire familiale. Un portrait qu'on trouve dans le carnet de l'exposition et un portrait qui est élu par Marion. Zoé, vous avez organisé au mois de mai une rencontre publique à Neuvic. Jean Brive, marchand de toile, dont on vient d'écouter le portrait. Denis Faugeras, fils de marchand de toile, et Gérard Fandard, président de l'Association de la mémoire des marchands de toile, étaient présents pour témoigner. Comment s'est passée cette soirée ?
Alors déjà, c'était assez drôle parce qu'on s'est un peu retrouvés chez le marchand de toile ou alors peut-être à la foire des marchands de toile, au salon des négociants voyageurs, parce que on a, Denis Faugeras en particulier, a amené plein d'échantillons de son père, que son père utilisait. Moi, j'en ai amené aussi quelques-uns que j'avais pu récupérer. Et donc, il y a eu plusieurs tables avec des étalages d'échantillons. Et c'était vraiment ceux qu'utilisaient les marchands de toile lorsqu'ils allaient vendre chez les clients. Et il y a eu quelques petits débats, notamment entre Denis Faugeras et Gérard Fandard, qui sont pour un corrézien et pour l'autre cantalien d'adoption. Entre d'où vient l'origine des marchands de toile, parce qu'il y a toujours un petit peu la petite guéguerre entre le Cantal et la Corrèze, et entre ceux qui parlent de la mémoire des marchands de toile, d'où vient le premier syndicat négociant voyageur, enfin, voilà. Mais c'était quand même intéressant, on a une vingtaine de personnes et des échanges vraiment intéressés et intéressants.
Et les personnes présentes redécouvraient ou découvraient peut-être cette profession méconnue, comme on le disait en début d'entretien ?
Complètement. Pour Neuvik, en l'occurrence, il y a vraiment eu un syndicat négociant voyageur à Neuvik, qui était d'ailleurs, le créateur était neuvikois, enfin, et on n'en parle pas du tout dans la ville, et les neuvikois qui étaient là ne connaissaient pas du tout cette histoire-là.
Des échantillons de tissus étaient exposés durant cette réunion publique, cette soirée publique. Jean Brive, Gérard Fandard ou Denis Faugeras en ont-ils profité pour vendre un petit peu de toile ?
Et non, malheureusement. Pourtant, j'ai tenté, hein, puisque on reparlera tout à l'heure de Patrick Monange, mais il m'avait bien donné son numéro de téléphone pour vendre les bleus de travail qui lui restent. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.
Appelez-nous au 05 55 64 71 11 si jamais vous vouliez acheter un petit peu de toile à des marchands de toile corréziens ou cantaliens. D'ailleurs, vous avez fait des recherches pour préparer cette exposition Traces de migrants, des recherches sur ce métier de marchand de toile. À votre avis, les marchands de toile sont-ils originaires du Cantal ou de la Haute-Corrèze ?
Difficile comme question. Je pense qu'ils sont plus originaires du Cantal parce que c'est vraiment le foyer dur où il y en a vraiment un nombre très 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 important.
Un point pour le Cantal, donc.
Ouais, je sais pas trop si je devrais le dire, mais bon.
C'est trop tard, vous l'avez dit. Un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le moyen de transport. Vous avez expliqué que cette profession, marchand de toile, avait pris son essor dans la seconde moitié du 19e siècle. Le moyen de transport est alors un élément essentiel dans le quotidien des marchands de toile, et j'imagine par la suite un élément essentiel toujours. Pourquoi ?
Ben, parce que le marchand de toile doit transporter sa marchandise. Donc au départ, les premiers ou les premières, ce qui a aussi eu des femmes, partent à pied. Et avec, alors au début c'était plutôt des colporteurs, c'est-à-dire qu'ils vendaient plusieurs choses différentes, et puis après ils ont transporté la toile. Et un élément important dans cette profession, ça a été la maringotte, donc une espèce de voiture à cheval dans laquelle on pouvait installer une grande malle où on pouvait ranger le grand rouleau de toile. Et d'ailleurs la maringotte a été créée dans le Cantal. Après la maringotte, sont apparues donc les voitures, et la voiture, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, en plus, ça montre l'image extérieure. En fait, le marchand de toile, il est toujours bien propre sur lui, et il a une belle voiture qui est bien propre aussi, et dans laquelle il a tous ses échantillons. Et en plus, comme ils font quand même beaucoup de routes, c'est quelque chose d'important.
Oui, si les cordonniers sont les plus mal chaussés, les marchands de toile, eux, par contre, sont les mieux habillés.
On peut dire ça.
Combien de temps partaient les marchands de toile pour faire leur tournée ? Je ne sais pas comment appeler leur voyage.
On peut dire tournée, ouais. Alors ça dépend. Soit ils étaient... Alors au début, ils pouvaient être paysans et ils partaient l'hiver, par exemple, comme beaucoup de migrations sur le territoire. Après, ça a été, ça dépend s'ils partaient loin, en fait. S'ils partaient loin, ils pouvaient partir plusieurs mois. S'ils partaient moins loin, ils pouvaient partir la semaine et revenir le week-end. En fait, ça dépendait de s'ils ont un lieu d'attache loin et ils font la vente autour, ou s'ils vendent tout le long de leur chemin.
Jusqu'où allaient ces marchands de toile pour vendre leur toile ?
Partout en France, ils allaient même en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais, on l'a vu avec l'exemple de Jean Brive, et ils pouvaient même s'installer sur place. Et là, c'était plus une migration saisonnière, c'était une migration définitive.
Vous avez expliqué que lors de cette rencontre organisée à Neuvik, des personnes présentes avaient complètement oublié cette profession, la profession de marchand de toile, alors que pourtant un des premiers syndicats de marchands de toile a été créé à Neuvik. Deux syndicats de négociants voyageurs sont créés dans les années 1920, un premier à Neuvik, comme je viens de l'expliquer, un second à Conda. Quel impact a eu la création de ces syndicats sur la profession de marchand de toile ?
Ça a été une étape assez importante, puisque avant on disait plus marchand de toile ou d'autres noms pour les désigner, et là est apparu le nom de négociant voyageur, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on connaît un peu plus négociant voyageur, ça a englobé aussi d'autres métiers par la suite, et ça a vraiment structuré la profession. Ils ont été mieux reconnus en tant que commerçants, et peut-être mieux acceptés en commerçant itinérant chez les clients. Et d'ailleurs, ça a été important à la fin des 50-60, au moment où la profession l'a diminué, où il y avait de moins en moins de négociants voyageurs. Ça a été important pour mettre en valeur la profession et la faire entendre.
La création de ces syndicats de marchands de toile dans les années 20 avait pour but premier de fédérer les marchands de toile. Est-ce que ça avait aussi comme but de, je dirais, normaliser un peu la pratique des marchands de toile ?
Ça leur donne un peu une légitimité parce que, un peu comme les marchands de vin, il y a eu des histoires de, oui, d'arnaque ou de ben, la toile c'est cher, voilà. Mais ça a permis ouais, d'avoir une seule voix pour tous les marchands de toile. Et d'ailleurs, ça n'a pas été si facile de créer un syndicat des négociants voyageurs.
Dans l'exposition « Traces de migrants », on trouve des témoignages audio pour alimenter le fond de cette exposition, une exposition que vous renouvelez régulièrement. Zoé Dupeu, vous avez rencontré Patrick Monange, fils de marchand de toile. Que vous a apporté cette rencontre ?
Eh ben, je pensais que tous les marchands de toile étaient partis de Corrèze pour travailler, mais en l'occurrence, la famille Monange a commencé à être marchand de toile à Saint-Pantaléon-de-la-Plau, dans le canton de Neuvic, et est parti vendre juste autour de Saint-Pantaléon, dans les petites communes autour. Puis ensuite, les parents de Patrick se sont installés à Brive avec un magasin dans Brive et partaient faire la tournée autour de Brive. Donc eux, ils sont vraiment restés en Corrèze.
Et vous n'avez pas fait que rencontrer Patrick, vous l'avez enregistré. On écoute tout de suite un extrait de cet entretien.
Je m'appelle Patrick Monange, je suis issu d'une famille de négociants voyageurs. Mes arrière-grands-parents ont créé la maison Monange chez Sac en 1898 à Saint-Pantaléon-de-la-Plau, dans leur maison, qu'on appelle la maison de Jeanque, qui se situe à côté de l'église de Saint-Pantaléon, et après à Brive, où ils ont créé et développé leur commerce. Ils étaient paysans. À l'époque, mon arrière-grand-père n'était pas l'aîné, donc il n'avait pas une terre Ils étaient plutôt pauvres et il a voulu se diversifier. Et c'est comme ça qu'il a commencé à acheter de la toile et qu'il la vendait. Il la vendait par rouleau. C'était des rouleaux et il avait une carriole. Et il allait chez les gens et il présentait ce qu'il avait. Alors il allait d'abord à Saint-Pantaléon-de-la-Plau et après c'était aux alentours, les villages aux alentours. Ça devait être Neuvic, Saint-Hilaire, Soursac, La Tronche. C'était vraiment un périmètre vraiment très petit. Après, ma grand-mère a pris la suite. Et en 1922, avec mon grand-père, ils sont allés s'installer à Brive parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de marchands de toile. Ça se développait et ils allaient plutôt sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Corrèze. Donc eux se sont dit, on va aller du côté de Brive. Et ils ont créé à Brive leur commerce. Ma grand-mère tenait le commerce et mon grand-père prospectait. Et après, ça a été mon père et mon oncle qui se sont partagés, en fait, la Corrèze. Et après, ma grand-mère a arrêté de travailler à 60 ans. Et c'est ma tante, l'épouse de mon oncle, qui a pris le commerce à Brive. Et le commerce s'est arrêté avec mon père en 1993. Mon père a vendu son fonds de commerce et mon oncle aussi a vendu son fonds de commerce. Et je n'ai pas voulu faire ça. Alors, mes grands-parents paternels étaient partis au Creusot, c'est en Haute-Saône, en 1922, parce que ma grand-mère avait un oncle qui était lui aussi marchand de toile au Creusot, qui n'avait pas de descendance et qui avait demandé à ma grand-mère de venir. Seulement, quand ils sont arrivés, c'était un grand magasin. Et ma grand-mère a eu peur. Il lui fallait quelque chose de proche, de petit. Elle ne voulait pas travailler dans un immense magasin, ça ne l'intéressait pas. Donc ils sont restés quelques temps, puis ils sont revenus sur Brive. Moi, j'accompagnais mon père le mercredi. Je n'avais pas école le mercredi, donc on partait. Il prenait dans le magasin ce qu'il avait besoin par rapport à ses commandes. Et on allait, c'était plus la Basse-Corrèze, donc c'était plus vers Obja, en fait. On passait une journée vers Obja, on faisait tous les villages, il avait ses clients. Et on s'arrêtait chez les gens, et donc mon père présentait l'objet, et puis la personne disait oui ou non, mais généralement c'était oui. Et puis il insistait en disant, venez voir dans... Alors, mon père avait un fourgon Volkswagen et dedans, il y avait d'autres choses que les objets qu'il allait vendre. Donc, pour attirer le chaland, quoi, tout simplement. Et puis après, on mangeait au restaurant, puis on repartait l'après-midi, puis on rentrait le soir. Mes parents tenaient un stand à bord. Ils ont tenu pendant des années. Et ça leur permettait de voir les autres négociants voyageurs, d'échanger les produits, puisque mon père, moi je suivais mon père justement de stand en stand, Là, il allait présenter ce que lui vendait et puis on lui montrait ce que les autres vendaient. On travaillait beaucoup avec le secteur de Gérardmer dans l'Est. Il y avait beaucoup d'échanges entre mon père et Gérardmer. Il achetait beaucoup là-bas. Je pense que ça devait être une maison même. Ça devait être une maison où il fabriquait les vêtements. Par exemple, mon père vendait ce qu'on appelle les toiles, les pantalons. Mais il y avait aussi des chemises. Et je pense que ça venait de Gérardmer, en fait. Je sais que mon père vendait aussi, ça pouvait être des matelas, des sommiers, ça pouvait être des meubles de salon, par exemple. Il y avait aussi des fournisseurs qui venaient à la maison. Alors, ils venaient au moins une fois par trimestre, présenter ce qu'ils avaient à vendre. Et mon père disait, d'accord, je prends ou je prends pas. On touchait différentes clientèles. En fait, mon père et mon oncle allaient à la campagne. C'était essentiellement une clientèle de campagne. Les tabliers, les chemises, les serviettes, les gants, etc. C'était vraiment à la campagne. Les draps aussi. Mes parents, enfin mon père et mon oncle, mes grands-parents vendaient les draps brodés. Donc c'était des draps à vie. Moi, j'ai le souvenir, un de mes collègues m'a dit que ses grands-parents avaient encore les draps qui venaient des arrière-grands-parents. C'était quelque chose qu'on... C'était sans doute de la qualité. Ça leur a permis de s'enrichir. D'une maison à Saint-Pantaléon, on est passé à 4. Donc forcément, plus acheter des immeubles à Brive. C'est vrai que oui, la famille s'est enrichie. C'est vrai. Je pense qu'il faut avoir, pour ce métier-là, et tous les négociants le diront, il faut avoir un certain bagou, ne pas être timide, aller vraiment au-delà de ce que veulent les gens, penser à ce qu'ils aimeraient avoir chez eux. Et puis surtout se plier, c'est-à-dire que mon père a eu une cliente un jour qui était très difficile, il avait acheté pour elle quelque chose, et au dernier moment, elle l'a pas voulu. Il fallait pas s'énerver, il fallait surtout pas aller braquer les gens, il fallait aller dans ce que eux voulaient. Et c'est pas évident.
C'était un extrait de l'entretien de Patrick Monange, fils de marchand de toile. Vous pourrez retrouver ce témoignage audio prochainement dans l'exposition « Traces de migrants ». Zoé Dupeux, je rappelle que vous êtes responsable du pays d'art et d'histoire des Hautes-Terres corréziennes et de Ventadour. Cet entretien arrive à son terme. Comment et où peut-on découvrir cette exposition ?
Alors actuellement, elle est installée à Lafage-sur-Sombre jusqu'au 18 juillet. À partir du 19 jusqu'au 15 août, elle sera à Saint-Fréjoux. À partir du 19 juillet jusqu'au 15 août, elle sera à Saint-Fréjoux. Puis à partir du 16 août jusqu'au 20 septembre, elle sera à Ussel, en partie à la galerie d'exposition du Musée du Pays d'Ussel et en partie au Centre culturel Jean Ferrat. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et écouter des témoignages, il y en a plusieurs et le site de l'Association de la mémoire des marchands de toile est vraiment très intéressant. Donc je vous invite à y aller, c'est lamémoiredesmarchandsdetoile.fr qui est vraiment très fourni et très intéressant.
Zoé Dupeux, nous vous retrouvons en septembre pour continuer d'explorer cette exposition Traces de migrants. En septembre, nous parlerons des scieurs de long. Merci à vous d'être venu nous présenter l'exposition Traces de migrants en général et le chapitre consacré aux marchands de toile en particulier.
Merci.